n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible.
En 1942, la phrase de Pindare sert d'épigraphe au mythe de Sisyphe, dans lequel le jeune Albert Camus, nietzschéen modeste et ambitieux, montre en 120 pages limpides comment ne pas se suicider quoique la vie n'ait aucun sens. En 1999, la même phrase de Pindare est devenue l'exergue de la théorie du corps amoureux du jeune Michel Onfray, qui démontre, lui, sur 300 pages implacables, que le sexe vaut mieux que l'abstinence. Que s'est-il donc passé entre-temps? C'est simple. La loi du marché s'est imposée, le courage a perdu la guerre et les idées simples ont remplacé l'écriture dépouillée. On a dit de Camus qu'il était un auteur précoce, mais c'est oublier que si la vie est absurde, alors on est plus vieux en un sens à 30 ans qu'à 50. À 50 ans, on est encore loin d'être âgé, mais à 30, on est encore assez jeune pour savoir qu'on ne l'est plus tout à fait. À 30 ans, la vie est déjà longue, à 50, elle est encore longue. À 30 ans, on ne renonce à rien, seuls les sportifs prennent leur retraite. À 50, on a lâché depuis longtemps. Bref, à 50 on accepte, à 30 on espère, or au pays de l'absurde, l'espoir est souvent plus douloureux que le renoncement. Mais on pourrait aussi dire l'inverse, on pourrait dire qu'il faut avoir 30 ans, la force de ces 30 ans, pour se payer le luxe de vivre sans illusion et de défier le néant. Et que c'est quand on voit, à 50, que le temps passe toujours, qu'on n'a plus les moyens de ne croire en rien. Le vertige, c'est bon pour les jeunes. Quand les hommes mûrs ont la tête qui tourne, ils se détournent du réel, ils tournent de l'œil et regardent du côté de Dieu. En tout cas, contrairement à ce qu'on croit, le fait de savoir à chaque instant qu'on va mourir n'est pas moins insupportable quand le corps n'en laisse rien paraître. Et c'est à la fin de l'adolescence, quand on se persuade encore que le plus important n'a pas commencé, qu'on se sent parfois vraiment très vieux. Après, peut-être on s'habitue. Le mythe de Sisyphe est donc l'œuvre surprenante d'un jeune vieillard qui va sur ses 30 ans et qui boucle, avec cet essai magistral, le projet à tous égards insensé de rédiger coup sur coup trois versions de l'absurde. Une pièce de théâtre, Caligula, un essai donc, le mythe de Sisyphe, un chef-d'œuvre enfin, son seul chef-d'œuvre, intitulé « L'étranger ». Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, elles écriraient à quatre mains le mythe de Sisyphe. Délivrant une sagesse d'ancêtre dans la langue des jeunes gens, le génie de Camus fait mentir les dictons et donne à des lecteurs à peine sortis de l'enfance les moyens de survivre à la certitude de mourir. Comme Camus le dit dans ses carnets, créer des morts conscients, c'est diminuer la distance qui nous sépare du monde. Aujourd'hui, pour le troisième temps de cette première matinée consacrée à Albert Camus, c'est avec André Comte-Sponville, philosophe et auteur en particulier d'un livre collectif intitulé « Camus, de l'absurde à l'amour », paru aux éditions Parole d'Aube en 96, que nous allons aborder le mythe de Sisyphe.
Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe pour être estimable doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit.
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose, chez Camus en général, et dans le mythe de Sisyphe en particulier, qui touche à la jeunesse, la nôtre, anecdotiquement, la jeunesse de Camus, et puis surtout, je dirais, la jeunesse éternelle. L'âge de la fraîcheur, de l'ouverture, de la disponibilité, de la fragilité.
Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement le livre d'une génération, c'est le livre d'un âge.
C'est le livre d'un âge... C'est le livre un petit peu, ça fait partie au fond des rares livres de l'humanité. Alors, il faut mettre les choses au point. Il y a deux fragilités dans le mythe de Sisyphe. Il y a la bonne fragilité, qui est celle de la jeunesse. Et puis, il y a une fragilité un petit peu, je veux dire, intellectuelle, disons plutôt culturelle. C'est-à-dire, disons la chose simplement et bêtement, Camus n'était pas agrégé de philo. Et ça se sent, voilà. Sartre était agrégé de philo, ça se sent aussi. Donc, s'il s'agit de dire que Sartre en savait beaucoup plus que Camus en philosophie, c'est une évidence, si vous voulez. N'importe quel de nos collègues, vous et moi, nous savons plus que Camus en matière de philosophie. Ça ne prouve rien ni pour nous, ni contre Camus. Mais c'est vrai que des fois, il lui manque un petit peu cet arrière-fond, ce ce support théorique de savoir qui fait la force, par exemple, de l'être et le néant, pour prendre deux œuvres contemporaines en même tellement différentes.
Et en même temps, ça lui donne aussi peut-être les moyens ou la liberté de résumer des systèmes de pensée en une page ou deux, comme il le fait avec Chestov, Kierkegaard ou Heidegger dans le mythe de Sisyphe, et d'en livrer finalement une interprétation qui, à titre liminaire, introduction à la lecture d'un philosophe, est tout à fait non seulement acceptable, mais même passionnante. Le fait de n'avoir pas derrière lui la semi-remorque de l'agrégatif lui permet aussi, peut-être lui donne une liberté de ton et une aptitude à résumer les philosophes que d'autres n'ont pas.
Tout à fait. Et puis, il y a le talent. Il y a le talent, il y a la gravité, il y a la profondeur, il y a l'humanité. Si bien qu'en vérité, moi j'ai relu une bonne partie du livre ce matin avant notre entretien, sincèrement, Chestov, je n'ai rien lu. Jasper, j'en ai peu lu, mais ça m'importe beaucoup moins que Camus. Et même Kierkegaard, dont le génie est incontestable, mais sincèrement, je tiendrais davantage à ce que mes enfants lisent le mythe de Sisyphe, plutôt qu'ils ne lisent ou le journal du séducteur ou le traité du désespoir.
Ou même la critique de la raison pure. Hein.
Ou surtout la critique de la raison pure. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'évidemment, Camus n'est pas Aristote, Camus n'est pas Kant. Aristote et Kant étant, à mon sens, les deux plus grands philosophes de tous les temps. Et je précise que je ne suis, tant s'en faut, ni aristotélicien, ni kantien. Mais voilà, je crois que c'est un petit peu comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Aristote est le plus grand philosophe de l'Antiquité, Kant le plus grand philosophe des temps modernes. Il est évident que Camus ne joue pas dans la même catégorie. Mais le paradoxe, c'est que, au fond, que mes trois garçons lisent un jour ou pas la critique de la raison pure,
l'éthique
ou la métaphysique d'Aristote, ou l'éthique à Nicomaque, au fond, c'est pas du tout mon problème. On peut très bien vivre, être un homme formidable, sans avoir jamais lu ni la critique de la raison pure, ni l'éthique à Nicomaque. S'il ne lisait jamais le mythe de Sisyphe, j'en serais en quelque chose peiné, j'allais dire blessé, peut-être un peu inquiet pour eux. Parce que je crois que ce livre dit de façon tellement simple et tellement forte des choses si essentielles et si proche à la fois de la jeunesse, mais aussi de notre temps, malgré tout, parce que c'est cet âge de l'absurde que Camus non pas inaugurait, mais dont il marquait fortement l'apparition.
Puis dont il donnait la formulation la plus explicite aussi.
Oui, la plus explicite, la plus noble, la plus émouvante, la plus digne à bien des égards. Bref, je crois qu'aujourd'hui, un jeune garçon, une jeune fille d'aujourd'hui peut tout à fait se passer de lire la critique de la raison pure, mais pas de lire le mythe de Sisyphe. Ça n'empêche pas, encore une fois, que la critique de la raison pure est évidemment un livre philosophiquement infiniment plus important, plus riche, plus profond que le mythe de Sisyphe. Mais c'est autre chose. Mais la singularité de Camus en général et du mythe de Sisyphe, là encore en particulier, c'est peut-être ça. C'est que il touche au-delà de sa qualité proprement philosophique. Non pas qu'il ne soit pas un philosophe, comme certains le disent. Si, c'est un philosophe, c'est pas l'un des plus grands philosophes.
Lui-même se désignait davantage comme un penseur qu'un philosophe.
Oui, mais vous savez, le nombre de gens qui ont dit qu'il n'était pas philosophe, alors qu'il était manifestement, Foucault aussi disait qu'il n'était pas philosophe, Montaigne disait qu'il n'était pas philosophe, ça fait partie des prudences de chacun.
Nietzsche disait qu'il n'était pas philosophe.
Ça dit assez combien le mot de philosophie fait peur, en vérité. Ben voilà, moi je dis que je suis philosophe, et j'assume la chose, et je pense d'ailleurs que Camus, Montaigne, Nietzsche l'étaient évidemment aussi. Mais voilà, il y a cette singularité de toucher plus fortement que la qualité proprement théorique, conceptuelle, ne pourrait l'expliquer. Et je crois que c'est lié à la qualité humaine du texte, mais qui renvoie à la qualité de l'homme Camus, que c'est lié à la profondeur des questions qu'il pose, ou de la question qu'il pose. La seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide, c'est l'une des toutes premières phrases. C'est-à-dire non pas la question de la mort, mais la question du sens de la vie, comme il le dit expressément.
Il arrive que les décors s'écroulent. Levé, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève, et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne où c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la conséquence. Suicide, ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant.
Eh bien voilà, cette façon simple et grave de dire des choses profondes et fortes, elle fait partie de la grandeur de Camus, et il serait peut-être temps qu'on arrête de lui reprocher ses qualités. Non seulement il y a la lisibilité, la clarté, l'humanité, la beauté du texte, mais il y a aussi la nouveauté d'une pensée. C'est-à-dire que Camus inaugure quelque chose de nouveau et dans la sensibilité et dans la pensée contemporaine, qui est la conjonction, encore une fois, de l'absurde, du bonheur et de la dignité. Et de la révolte. Mais la dignité, bien sûr, pour Camus, est indissociable de la révolte. Eh bien, cette conjonction-là, ça crée quelque chose qui est radicalement neuf. Camus, ici, est un vrai créateur. Il apporte quelque chose de nouveau au monde de la pensée, mais donc aussi au monde de la vie, et je dirais au monde de l'émotion.
Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres.
Il faut rappeler que Camus, lui-même, racontant sa trajectoire philosophique, disait qu'il voulait d'abord exprimer la négation sous trois formes. Romanesque, c'était L'étranger, qui est un livre contemporain, un mythe de Sisyphe. Dramatique, c'est Caligula, ou bien Le Malentendu. Et idéologique, dit-il, c'est le mot qu'il emploie, c'est le mythe de Sisyphe. Après quoi, ensuite, il envisage la positivité, et non plus la négation, sous la forme de la peste, de l'état de siège ou des justes, ou bien sous sa forme idéologique qui est l'homme révolté. Mais la formulation qu'on trouve dans le mythe de Sisyphe, la singularité du mythe de Sisyphe, réside dans le face-à-face qu'il décrit entre, d'une certaine façon, l'homme et sa propre condition, c'est-à-dire l'homme et la question de l'absurde. Alors, entrons. Comme dit le juge d'instruction à Meursault dans L'Étranger, entrons dans le vif du sujet. Si je vous demande, André Comte-Sponville, ce qu'est l'absurde, vous allez me dire que c'est une mauvaise question, parce que l'absurde en lui-même n'est rien. Ce serait même un contresens que l'absurde soit quelque chose. L'absurde, dit Camus, résulte d'une comparaison. Comment ça fonctionne?
L'absurde résulte d'une rencontre, mais donc ça n'est pas tout à fait rien, parce que la rencontre est bien réelle. C'est une rencontre contradictoire.
Mais l'absurde a besoin d'un contrepoint.
Il y a besoin d'une dualité. Voilà. Rien n'est absurde en soi. Pour qu'il y ait absurdité, il faut qu'il y ait rencontre d'au moins deux choses, d'au moins deux événements. L'idée de cercle n'est pas absurde, l'idée de carré n'est pas absurde, mais l'idée d'un cercle carré est absurde par la rencontre impossible de deux notions contradictoires. Alors ça, c'est pas les exemples de Camus. L'exemple que donne Camus, c'est si je vois un homme attaquer un nid de mitrailleuse à l'arme blanche, dit Camus, je jugerais que son acte est absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a une disproportion entre l'objet qu'il attaque, un nid de mitrailleuse, et les moyens qui sont les siens, une arme blanche. Voilà, pour qu'il y ait absurdité, il faut qu'il y ait rencontre entre deux choses. Alors, quel est l'absurde fondamental? Quelle est la rencontre première? C'est la rencontre de l'homme et du monde. La rencontre entre l'homme qui cherche un sens et le monde qui n'en offre pas. Si bien que c'est pas le monde qui est absurde, le monde, il est ce qu'il est, simplement. C'est pas l'homme qui est absurde. Ce qui est absurde, c'est la conjonction paradoxale entre la quête de sens de l'homme, l'appel de l'homme, et, comme dit Camus, le silence du monde.
Déraisonnable du monde.
L'homme cherche un sens, l'homme cherche une raison, mais quelque chose que du côté du raisonnable, quelque chose que la raison puisse justifier, puisse approuver, et que le monde refuse de satisfaire cette demande de l'homme.
En d'autres termes, l'absurde naît tout entier de la volonté de trouver un sens. Voilà. Pascal faisait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. D'une certaine façon, Camus fait dire à l'absurde, tu ne me trouverais pas si tu n'avais pas entrepris de chercher mon contraire.
Voilà. C'est pourquoi je crois d'ailleurs que l'absurde n'a de sens que provisoire. Parce que une fois qu'on a vraiment pensé l'absurde, la seule logique vraie, c'est de renoncer à chercher un sens. Et du même coup, l'absurdité même s'abolit. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est qu'au fond, il y a non pas deux temps, mais trois temps dans l'œuvre de Camus. Simplement, vous avez eu raison de ne citer que les deux qu'il a eu le temps d'écrire, puisque le troisième est resté à l'état virtuel.
Il voulait parler d'amour.
Voilà, il voulait parler d'amour. Dans le texte que vous évoquez, en effet, que Camus dit, je cite de mémoire, mais j'avais prévu trois temps dans mon œuvre.
Il parle d'une troisième couche.
Voilà, un moment négatif, alors c'est celui de l'étranger, c'est celui du mythe de Sisyphe, c'est celui de l'absurde. C'est quoi l'absurde? C'est le non du monde à l'homme. Voilà. L'homme cherche du sens, le monde répond non, c'est-à-dire le monde se tait. Une deuxième couche, une deuxième tranche, pourrait-on dire, plus positive, alors c'est la peste, c'est l'homme révolté, c'est la révolte, c'est-à-dire c'est le non de l'homme au monde. L'absurde, le monde dit non à l'homme, la révolte, l'homme dit non au monde. J'avais prévu une troisième couche, dit Camus,
c'est la
qui
couche
serait
du
consacrée
oui.
à l'amour. C'est évidemment la couche du oui, ce que j'appelle la couche de la sagesse, la couche de l'acquiescement ultime, puisque au début du mythe de Sisyphe, Camus nous dit que l'absurde n'existe qu'à la condition qu'on n'y consente point, donc il faut dire non à l'absurde pour qu'absurdité il y ait, mais à la fin du mythe de Sisyphe, comme vous savez, il dit que le vrai mot de Sisyphe, au fond, dit oui, l'homme absurde et l'homme du oui. Or, alors certains, parfois, les gens croient que c'est contradictoire, qu'il y a à la fois révolte et approbation ultime. Mais non, bien sûr, parce que l'homme absurde dit oui, mais y compris au nom du monde, à l'homme, y compris oui à l'absurde. L'homme absurde dit oui, mais y compris au nom de l'homme au monde. C'est bien que l'homme absurde dit oui à l'absurde, il dit oui à la révolte et il dit oui à l'ensemble du monde.
Et donc on a un début de réconciliation.
Là, il y a une sagesse. Là, il y a une sagesse. Simplement, ce livre de la sagesse, Camus n'a pas eu le temps de l'écrire puisqu'il avait presque annoncé dans le livre, la seule perte irréparable, c'est une mort prématurée, disait-il. Il est mort, comme vous le savez, de façon tragiquement prématurée.
L'irrationnel, la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête à tête. Voilà les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable.
Camus, avant d'écrire le mythe de Sisyphe, avait écrit L'envers et l'endroit. C'est un livre dont je retiens ici le titre. C'est-à-dire, c'est un livre qui, d'une certaine façon, est programmatique chez Camus, dans la mesure où il témoigne chez Camus d'une volonté d'appréhender, justement, simultanément, le oui et le non, la révolte et l'adhésion, la joie et le désespoir, et d'une certaine façon, l'absurde et la quête d'un sens, quand bien même ce sens se trouverait dans une adhésion paradoxale à un monde qui se tait. Donc, il y a chez Camus une volonté, et alors là, pour le coup, c'est très fort, une volonté de penser simultanément, j'allais dire une chose et son contraire, disons une vérité et la vérité d'en face. Il dit
oui, c'est la dualité, c'est-à-dire l'absurde et la révolte, et ça c'est le génie de Camus. Parce qu'au-delà de telle ou telle faiblesse, je dirais quasi instrumentale, il n'avait pas les bons outils, c'est pas très important. Il voit étonnamment juste. C'est ça. Prenons plutôt que comparer Camus avec des auteurs d'autres époques comme Kant ou Aristote, prenons deux textes à peu près contemporains. Hein. Le mythe de Sisyphe et L'être et le néant de Sartre, si vous voulez.
Oui, c'est là quasiment encore, la même année. Oui.
Ça ne me gêne pas du tout.
L'être et le néant est paru en 43, il faut préciser.
Un an différent. Ça ne me gêne pas du tout. L'idée que mes trois garçons ne lisent jamais L'être et le néant. C'est un chef-d'œuvre, évidemment. Philosophiquement, oui, c'est plus riche, c'est plus savant. Il était agrégé de philo, il est très doué, il est très très habile. Mais sincèrement, je crois que le mythe de Sisyphe, c'est beaucoup plus vrai.
Ouais, c'est pas ça, c'est que L'être et le néant, ça fait 648 pages. Oui, mais le mythe de Sisyphe en folio, ça tient dans la poche.
C'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est la question de la vérité. Je vais vous dire, de mon point de vue, si je peux le dire, je vais dire immodestement, mais en philosophie, il faut dire ce qu'on pense, c'est pas de l'immodestie, c'est l'exigence minimale. L'être et le néant est un grand livre faux. Voilà. C'est-à-dire que, simplement, rien n'est vrai pour moi dans ce livre. Je l'admire, si vous voulez, mais je ne peux pas y adhérer intellectuellement. Le mythe de Sisyphe est moins impressionnant de talent, de virtuosité spéculative, évidemment. Mais c'est un grand livre vrai. C'est-à-dire que l'essentiel est vrai au-delà de tel ou tel point qu'on peut discuter. Et je crois que peut-être si notre époque est injuste avec Camus, et tellement indulgente avec Sartre, souvent, en tout cas dans l'intelligentsia et les médias, c'est peut-être qu'on a oublié que la principale qualité d'un texte intellectuel, c'était sa vérité. Si vous
voulez. Ou sa simplicité, parce que c'est vrai que L'être et le néant est d'une technicité invraisemblable, en particulier les premières pages où on sent que Sartre a envie de démontrer que lui-même est un artisan et un technicien hors norme.
Oui, c'est une naïveté, on a tous fait ça, si vous voulez, hein, mais écrire un livre pour montrer qu'on a été un bon étudiant, sincèrement, heureusement que Camus n'est pas tombé dans ces travers-là. Non, mais c'est un grand livre vrai. Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie que les jeunes le lisent? C'est que il a dit des vérités essentielles, si vous voulez. Et on ne peut pas parler d'un texte qui est un texte de pensée sans prendre acte de cette dimension. Eh bien voilà, l'une des vérités essentielles, c'est que l'homme cherche un sens, que le monde n'en offre pas, que nous sommes voués de ce point de vue et à l'absurde et à la révolte, et que la seule issue est dans un oui ultime, le oui de l'amour, comme dit Camus, le oui de la sagesse, comme je préférerais dire plus modestement peut-être, qui inclut le oui à l'absurde, le oui à la révolte, et le oui finalement au combat dans la paix qui les unit, si vous voulez. Alors ça, voilà, je crois que c'est ça le vrai contenu, à la fois humainement bouleversant et philosophiquement singulièrement fort et singulièrement neuf du mythe de Sisyphe.
Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. Les grands sentiments promènent avec eux leur univers splendide ou misérable. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif, où ils retrouvent leur climat. Il y a un univers de la jalousie, de l'ambition, de l'égoïsme ou de la générosité. Un univers, c'est-à-dire une métaphysique et une attitude d'esprit. Ce qui est vrai de sentiments déjà spécialisés, le sera plus encore pour des émotions à leur base aussi indéterminées à la fois, aussi confuses et aussi certaines, aussi lointaines et aussi présentes que celles que nous donne le beau ou que suscite l'absurde. On sent bien qu'ainsi je définis une méthode. La méthode définie ici confesse le sentiment que toute vraie connaissance est impossible. Seules les apparences peuvent se dénombrer et le climat se faire sentir.
Est-ce que la nouveauté ne tient pas également à une question de méthode? Puisque, en général, nous partons de l'unité pour la diffracter dans le raisonnement, pour ensuite envisager des alternatives qu'elle inaugure. Or, Camus part d'un divorce. C'est même le mot qu'il emploie. Hein. L'absurde est essentiellement un divorce. Il n'est, on l'a vu, ni dans l'un ni dans l'autre des éléments comparés. Il naît de leur confrontation. L'absurde est donc dans la comparaison même, comme nous l'avons vu, entre l'homme et le monde, plus que dans les termes mêmes de la comparaison qui en eux-mêmes ne sont pas absurdes. Et pourtant, ce divorce initial, primordial, inaugural, débouche justement sur la perspective d'une réconciliation. On va voir un peu plus tard comment ça fonctionne dans la personne de Sisyphe. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est de l'ordre d'un univers camusien, univers écrit en deux mots avec un trait d'union, au sens où Camus va vers l'unité de la même façon qu'il va vers la paix, que finalement toute son œuvre est résumée dans le mythe de Sisyphe, toute sa démarche dans la mesure où il prend acte d'une scission initiale et qu'il tend ensuite vers une réconciliation?
Oui. Univers, ça me gêne un petit peu, parce que le divorce initial ne sera jamais complet. C'est-à-dire que le monde n'apportera jamais le sens que l'homme cherche. Donc la réconciliation n'abolit pas le divorce, bizarrement. C'est un petit peu comme un couple qui se serait séparé, qui constaterait qu'ils sont séparés en vérité depuis le début, que leur union n'était qu'un effroyable malentendu, comme on dit.
Monsieur homme et madame monde.
Et qui, finalement, apprendra à vivre ensemble, mais sans repasser devant Monsieur le maire, sans annuler le divorce, la séparation qu'ils ont constatée. Parce qu'encore une fois, il s'agit de dire oui à l'absurde, c'est-à-dire de dire oui, le monde n'a aucun sens. De dire oui à la révolte, c'est-à-dire oui, je veux du sens, le monde n'en a pas, donc je me révolte contre le monde. Il ne s'agit pas du tout de dire non, finalement, il n'y a pas d'absurde, je m'étais trompé. Il ne s'agit pas de dire finalement, je renonce à la révolte. La réconciliation que vous évoquez à juste titre, c'est le mot que Camus utilise lui-même, le oui ultime. Encore une fois, il inclut l'acceptation de l'absurde et l'approbation de la révolte. Enfin, surtout, ne supprimons aucun de ces deux termes. Alors, c'est pour ça que le mot d'univers me gêne un petit peu, au sens où on pourrait croire que Camus part d'une dualité, parce que là-dessus, vous avez tout à fait raison. L'une des singularités philosophiques du mythe de Sisyphe, c'est qu'on part de la dualité. La dualité entre le monde et l'homme vécue comme double négation. Non du monde à l'homme, l'absurde, non de l'homme au monde, la révolte. Mais cette dualité n'est jamais abolie. Elle va perdurer puisqu'on maintient l'absurde jusqu'au bout, on maintient la révolte jusqu'au bout, mais on les accepte l'un et l'autre. Au fond, on ne supprime pas le divorce, on accepte qu'il y ait divorce. Les couples séparés doivent savoir que c'est un travail à la fois difficile et nécessaire.
Il n'est pas évident de se séparer.
Et surtout d'accepter qu'on le soit. Il y a une espèce de travail du deuil, on pourrait dire ça en termes freudiens, qui est faire le deuil du sens et du même coup, on entre dans une autre logique. Camus, lui, il fait de la métaphysique, il fait de l'existentiel. Il le dit quelque part, la différence entre les classiques et les modernes, c'est que les classiques se posent des problèmes moraux, les modernes se posent des problèmes, je ne sais plus s'il dit métaphysique ou existentiel. C'est tout à fait une autre démarche. Camus, dans le mythe de Sisyphe, ne se demande pas comment être heureux. Il se demande pas comment échapper aux faux biens, à l'argent, la gloire, le sexe, pour tendre vers de vrais biens auxquels il ne croit pas du tout. Il part d'une sensibilité, il part d'une expérience qui est moderne, qui en effet n'est pas la sensibilité de Spinoza, qui est cette sensibilité de l'absurde qu'il a si bien exprimé autrement dans L'étranger, que Sartre, que Camus cite dans le mythe de Sisyphe, a dit autrement là encore dans La Nausée, cette espèce que Ionesco aussi bien a exprimé, Adamov un peu plus tard, cette sensibilité contemporaine qui est une sensibilité à l'absurde, mais conjointe chez Camus à un singulier goût de la vie. Disons, si on compare deux chefs-d'œuvre que sont par exemple la nausée de Sartre et L'étranger de Camus, dans les deux cas, il y a une sensibilité absurde. L'une des différences, c'est qu'il y a dans la nausée souvent une espèce de dégoût de la vie, d'ailleurs le mot même de nausée, de mélancolia, comme pour reprendre le premier titre que Sartre avait prévu pour ce livre, alors qu'il y a chez Camus, confronté au fond au même absurde, au moins à la même sensibilité de l'absurde, il y a chez Camus un goût pour la vie. Et je crois, là encore, que c'est dans cette rencontre entre l'absurdité et le goût de vivre qui fait la singularité, la grandeur de Camus. On ne peut pas penser l'absurde, dit-il à la fin du mythe de Sisyphe, sans envisager d'écrire un traité du bonheur. Mais le traité du bonheur, c'est au bout du compte, c'est pas du tout le point de départ. Voyez, c'est alors que dans le livre de Spinoza que vous évoquez, le traité de la réforme de l'entendement, la quête du souverain bien est au point de départ. Non, dans le mythe de Sisyphe, ce qui est au point de départ, c'est la sensibilité absurde. Il essaye d'en extraire un concept de l'absurde, et là, il fait un travail qui est rigoureux, qui est clair, qui est profond, et ça débouche ultimement sur la possibilité, peut-être, d'écrire un traité du bonheur.
Albert Camus, L'étranger. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux, il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivi. Je l'ai rattrapé, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Thank you. Jean-Paul Sartre, la nausée. 11h du soir. J'ai dîné au rendez-vous des cheminots. La patronne était là. J'ai dû la baiser, mais c'était bien par politesse. Elle me dégoûte un peu. Elle est trop blanche et puis elle sent le nouveau-né. Elle me serrait la tête contre sa poitrine dans un débordement de passion. Elle croit bien faire. Pour moi, je grappillais distraitement son sexe sous les couvertures. J'ai laissé aller mon bras le long du flanc de la patronne et j'ai vu soudain un petit jardin avec des arbres bas et larges d'où pendaient d'immenses feuilles couvertes de poils. Des fourmis couraient partout, des mille-pattes et des teignes. Il y avait des bêtes encore plus horribles. Leur corps était fait d'une tranche de pain grillé comme on en met en canapé sous les pigeons. Elles marchaient de côté avec des pattes de crabe. Les larges feuilles étaient toutes noires de bêtes. Derrière des cactus et des figuiers de barbarie, la véléda du jardin public désignait son sexe du doigt. Ce jardin sent le vomi.
Alors, la différence, c'est dire que la différence de ton entre La nausée et L'étranger, donc ces deux chefs-d'œuvre qui décrivent tous les deux une conscience perdue dans un univers dépouillé de son sens, d'une certaine façon. Alors, un univers qui, chez Sartre, le prend à la gorge et lui donne la nausée, et un univers qui, chez Camus, ménage la possibilité d'un bonheur solaire. Cette différence se retrouve autour de la question de la sexualité. Enfin, j'allais dire la question de la sexualité, c'est pas seulement la question de la sexualité, c'est le fait même du sexe. Dans L'étranger, Camus décrit l'étreinte entre Meursault et Marie Cardenas, et ce moment où dans la mer et dans l'eau salée, ils se serrent l'un contre l'autre, et où Meursault confesse lui-même qu'il a peut-être été heureux justement à ce moment-là, cet homme qu'on dit indifférent et qui en fait ne l'est pas. Dans La nausée, le sexe, si j'ose dire, ou le plaisir de cette nature, est réduit à Roquentin, l'anti-héros de La nausée, qui va au bar des cheminots, je crois, pour coucher avec la patronne trois fois par semaine, et qui ressent des démangeaisons et un léger désagrément quand elle n'est pas disponible parce qu'elle couche avec un autre. Donc il y a également, effectivement, chez Sartre, un dégoût qui demeure, et chez Camus, comme l'envers et l'endroit, finalement, un sentiment solaire qui se déploie à partir d'un constat qui pourtant est le même.
Il y a, dans L'étranger, chez Camus en général, il y a ce goût de la vie, comme je disais, ce goût du sexe, cet amour des femmes, si vous voulez, pour dire la chose simplement. Chez Sartre, au fond, tout le monde dit qu'il aimait fréquenter, qu'il aimait la fréquentation des femmes, qu'il préférait discuter avec une jeune fille qu'avec un prof de philo, ça je veux tout à fait bien le croire et le comprendre. J'ai pas le même sentiment d'un amour profond des femmes, d'un amour profond du sexe et d'un amour profond de la vie. Ni dans l'œuvre, ni dans les personnages. Petite parenthèse désagréable, faut pas dire du mal des morts, mais Sartre est tellement glorieux qu'au fond...
Qu'il n'est pas tout à fait mort, donc allez-y.
Il n'est pas tout à fait mort, voilà. Il y a tellement de sartriens qui me reprocheront mon propos qu'au fond, je peux les énoncer sans trop de lâcheté apparente. Je voudrais dire la chose suivante. À chaque fois, je découvre une nouvelle correspondance de Camus ou de Sartre. Je suis frappé de la différence. Plus je lis des lettres de Camus, plus je l'aime. Cet homme était admirable, cet homme était bouleversant.
Généreux,
beau de l'intérieur, si vous voulez. Et à chaque fois que je prends une nouvelle publication d'une correspondance de Sartre, je suis effondré. C'est d'une tristesse, d'une petitesse. C'est glauque, c'est dérisoire, c'est presque méprisable, si vous voulez. Alors ça ne retire rien au génie de Sartre. Un grand génie peut être un petit homme, mais ça n'ajoute rien au génie de Camus. Un homme formidable et pas forcément un génie. Il se trouve Camus était les deux. Mais quand même, arrêtons là encore de reprocher à Camus ses qualités, arrêtons de lui reprocher d'être tellement humain, tellement généreux, tellement bon, tellement sympathique,
finalement,
doué pour la vie.
Ce que le XXe siècle reproche à Camus, finalement, c'est de ne pas grincer suffisamment, d'une certaine manière, alors que pourtant c'est le penseur du divorce.
C'est de ne pas être triste, c'est de ne pas donner raison aux plus petits aspects de l'humanité, c'est de ne pas être nihiliste. Et il y a, dans notre époque, notamment... bien après la jeunesse de Sartre ou de Camus, mais dans les dernières décennies du XXe siècle et dans cette triste première décennie du XXIe,
Il y a une prime au nihilisme, au cynisme, à la noirceur, au dégoût, à la nausée qui devient vraiment pénible, si vous voulez. Et là encore, si on a envie, si j'ai envie en tout cas que les jeunes gens lisent le mythe de Sisyphe, c'est que ce livre donne envie de vivre. Alors ça n'empêche pas de tenez à lire parfois des livres qui donnent envie de tirer une balle dans la tête, mais arrêtons de reprocher aux livres qui donnent envie de vivre d'être faits, comme on dit parfois, avec des bons sentiments. À ce compte-là, il faut rappeler que Victor Hugo, c'est aussi des bons sentiments, que Aristote, c'est des bons sentiments, que Spinoza, c'est des bons sentiments, que Leibniz, c'est des bons sentiments. Tous les plus grands génies de l'humanité ont été du côté de l'amour, de la vie, du courage, de la lutte, de ce qui donne envie de se battre, et pas de ce qui donne envie de pleurer, de se coucher, ou de se tirer une balle dans la tête. Alors, ça n'annule pas ce que je disais en commençant. La nausée est l'un des plus beaux et des plus purs chefs-d'œuvre du XXe siècle. Mais c'est un chef-d'œuvre, malgré tout, un peu glauque, un peu débilitant. Il s'appelle La nausée, c'est pas un hasard. Et je rappelais tout à l'heure que le premier titre que Sartre voulait lui donner, La nausée a été une suggestion de l'éditeur, était Mélancolia. Alors, la mélancolie est un beau sentiment qui a ses lettres de noblesse philosophique.
Depuis Aristote.
Mais depuis les anciens. Mais l'amour de la vie, le courage, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme.
J'essaie de retrouver. C'est la dernière phrase, hein. Il y a de quoi remplir le cœur d'un homme.
La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Voici encore des arbres, et je connais leur rugueux. De l'eau, et j'éprouve sa saveur. Ces parfums d'herbe et d'étoiles, la nuit, certains soirs où le cœur se détend. Comment nierais-je ce monde dont j'éprouve la puissance et les forces? Pourtant, toute la science de cette terre ne me donnera rien qui puisse m'assurer que ce monde est à moi. Vous me le décrivez et vous m'apprenez à le classer. Vous énumérez ses lois et dans ma soif de savoir, je consens qu'elles soient vraies. Vous démontez son mécanisme et mon espoir s'accroît. Au terme dernier, vous m'apprenez que cet univers prestigieux et bariolé se réduit à l'atome et que l'atome lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci est bon et j'attends que vous continuiez. Mais vous me parlez d'un invisible système planétaire où des électrons gravitent autour d'un noyau. Vous m'expliquez ce monde avec une image. Je reconnais alors que vous en êtes venu à la poésie. Je ne connaîtrai jamais. Ai-je le temps de m'en indigner? Vous avez déjà changé de théorie. Ainsi, cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse. Cette lucidité sombre dans la métaphore. Cette incertitude se résout en œuvre d'art. Qu'avais-je besoin de tant d'efforts? Les lignes douces de ces collines et la main du soir sur ce cœur agité m'en apprennent bien plus.
Voilà, ce sont des choses, moi, qui me touchent. On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Et quoi? Par des voies si étroites? Mais il n'y a qu'un monde. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. C'est beau, c'est tonique, c'est stimulant.
C'est tonique, c'est stimulant, c'est beau, et c'est surtout paradoxal. Et c'est un paradoxe dans lequel il faut se plonger, car en général, on dit que pour être heureux, il faut avoir une raison de vivre, savoir pourquoi. Et j'insiste à dessein sur cette question.
C'est la nouveauté de Camus, c'est ce qu'il apporte de neuf dans la sensibilité et dans la pensée contemporaine.
Alors justement, c'est savoir pourquoi on se lève le matin. Et j'insiste précisément sur cette question parce que, en général, on dit qu'il n'a pas de raison de vivre, n'a que des raisons de mourir. À quoi Camus répondrait d'une certaine manière que qui se donne des raisons de vivre peut, le cas échéant, quand cette raison disparaît, trouver là une excellente raison justement de mettre fin à ses jours. Comme si, justement, la condition même du suicide, c'était le désir de sens et non pas la découverte qu'il n'y en a pas. Mais ce paradoxe insensé est un paradoxe qui, c'est le cas de le dire, insensé, est un paradoxe qu'on retrouve chez Camus, par exemple, dans L'été, où Camus chante, je le cite, « cette admirable volonté de ne rien séparer », c'est pourtant le penseur du divorce qui dit ça, l'homme déchiré, « cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure, qui a toujours réconcilié et réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et le printemps du monde ». Et dans le mythe de Sisyphe, il a cette phrase qui est extraordinaire, et vraiment, face à laquelle il faut réfléchir et qu'il faut essayer de comprendre dans sa profondeur folle, qui est « il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre ». En quoi le désespoir de vivre est-il justement la condition de cette envie de vivre que vous décriviez, de ces bons sentiments, de cet amour de vivre, puisque le lieu commun, c'est que S'il y a désespoir, il ne peut pas y avoir bonheur. En quoi le désespoir camusien est-il la condition précisément du bonheur qu'il ménage et qu'il décrit avec la personne de Sisyphe à la fin, dont on reparlera après?
Oui, bien sûr. Enfin, on pourrait partir de la formule fameuse de Kierkegaard dans le traité du désespoir. Le contraire de désespérer, c'est croire. Il m'est arrivé d'inverser la formule dans mon premier livre, en l'occurrence le mythe d'Icare. Référence, bien sûr, dans mon esprit à l'époque au mythe de Sisyphe. J'écrivais l'inverse, le contraire de croire, c'est désespérer. Et je faisais référence dans ton premier livre déjà au mythe de Sisyphe de Camus, parce qu'en effet, cette idée que l'athée cohérent et lucide ne peut pas échapper au désespoir. C'est une idée qu'on trouve chez Pascal, qu'on trouve chez Kant, qu'on trouve chez Kierkegaard, mais qu'on trouvait très peu chez les athées. C'est-à-dire beaucoup d'athées avaient tendance à essayer de trouver un autre sens, le sens de l'histoire, le sens de la vie, la morale, que sais-je.
Mais là, d'une certaine façon, il repose le même problème. Si Dieu n'existe plus, ils font comme si. Donc ça,
voilà. Il retrouve un autre espoir. Il se trouve un Dieu de remplacement. Camus donne raison, et je pense qu'il a raison. J'ai le même geste philosophique. Pascal a raison. Kant a raison, Kierkegaard a raison sur ce point précis. Donc, par exemple, surtout, évidemment, d'un mon point de vue, mais ils ont raison au moins sur ce point précis.
Kant
un
a raison,
athée
c'est vous qui l'avez
lucide
dit.
Et rigoureux ne peut pas échapper au désespoir. La vraie question, c'est est-ce que ce désespoir doit nous pousser au suicide? Et c'est pour ça que la seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide.
Ça, c'est la première phrase du mythe de Sisyphe.
Est-ce qu'on peut trouver ce que j'ai appelé, moi, un gai désespoir, ce que Camus appellerait, au fond, un bonheur désespéré ou un bonheur sans espoir? Et là, il y a un enjeu tout à fait décisif. Et c'est pourquoi Camus est à bien des égards un maître de sagesse précieux et rare, parce qu'il a su conjoindre ces deux idées qui, je crois, font partie de notre horizon spirituel, à nous les modernes, et surtout les modernes sans Dieu, les athées, l'idée du désespoir et le goût du bonheur. Voilà, marier la sensation du désespoir, de l'absurde et le goût du bonheur. C'est quand même un beau cadeau. Camus nous ouvre une porte qui est en vérité, me semble-t-il, la porte nécessaire pour tout athée moderne. C'est quand même pas rien.
Albert Camus, l'exil et le royaume. La pierre, maintenant, pesait douloureusement sur son crâne. Il avait besoin de toute la force de ses grands bras pour l'alléger. Ses épaules se nouaient déjà quand il atteignit les premières rues, dont la pente était glissante. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Il était seul. Il assura la pierre sur son support de liège et descendit d'un pas prudent, mais encore ferme, jusqu'au quartier des cases. Quand il y arriva, la respiration commençait de lui manquer, ses bras tremblaient autour de la pierre. Il pressa le pas, parvint enfin sur la petite place où se dressait la case du coq, courut à elle, ouvrit la porte d'un coup de pied et, d'un seul mouvement, jeta la pierre au centre de la pièce, sur le feu qui rougeoyait encore. Et là, redressant toute sa taille, énorme soudain, aspirant à goulet désespéré l'odeur de misère et de cendre qu'il reconnaissait, il écouta monter en lui le flot d'une joie obscure et haletante qu'il ne pouvait pas nommer.
C'est vrai qu'il est usage aujourd'hui de considérer bon que peut-être Dieu est mort ou peut-être qu'il n'existe pas, mais que il convient par conséquent de combler ce vide et de se demander comment une morale qui, vu que Dieu n'est plus ou n'occupe plus la place qu'il occupait au XVIIe siècle, vu que Dieu n'est plus, une morale qui donc sans transcendance aurait quand même pour vertu de combler ce retrait du divin. Est-ce que finalement Camus en 1941, en 1942, c'est-à-dire bien avant le début du 21e siècle, ne répond pas à l'avance justement à l'entreprise qui consisterait à dire « Essayons de faire comme si, d'une certaine façon, Dieu existait encore. »
Oui, mais il y a plusieurs choses à dire. D'abord,
Une fois qu'on est, qu'on part de l'absurde, il importe de s'interdire les esquives, comme dit Camus là. Quelles sont les esquives à l'absurde? La première, c'est le suicide. Parce que justement, si du fait que la vie n'a aucun sens, que la vie est absurde, on se tire une balle dans la tête, on supprime l'absurde. Et donc, c'est une façon d'éviter l'absurde, d'autant plus que mourir de son plein gré, c'est consentir à cette absurdité, alors que l'absurde n'existe en tant que tel que dans la mesure où l'on n'y consent pas, comme dit Camus. Donc voilà, ce que reproche au fond Camus au suicidaire, c'est qu'il a renoncé à la révolte. Voilà. Il ne s'agit pas de dire oui, je vais mourir encore plus vite que prévu. Non, il s'agit de refuser la mort, ça n'empêchera pas de mourir, mais au moins ça doit dissuader de mourir le plus vite possible.
Bah, de mourir surtout pour éviter la mort, c'est-à-dire voilà, de se suicider.
Voilà, de se suicider par peur de la mort, comme disait profondément Lucrèce. Alors voilà, première esquive, le suicide. Camus la refuse. Deuxième esquive, l'espoir. Alors qui peut être un espoir religieux, une vie après la mort, qui peut être un espoir politique, les lendemains qui chantent. Non pas du tout que Camus renonce à la politique, comme chacun sait, mais il renonce à la dimension utopiste de la politique. Arrêtons d'attendre le bonheur pour demain, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre, c'est aujourd'hui qu'il faut lutter. Et puis, il y aura éventuellement une troisième esquive qu'il semble annoncer, qui serait... celui de la réconciliation qui abolirait l'absurde, ce qu'il appellera dans L'homme révolté à propos de Nietzsche et contre Nietzsche, pour une fois, tu sais que Camus aimait infiniment Nietzsche, s'abîmer dans le cosmos. Voilà, il refuse au fond ce que j'appellerais une sagesse de l'immanence, une sagesse de la fusion.
Ce que Nietzsche appelle amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin.
L'amour du destin, l'acceptation de tout.
Où il voit une forme de renoncement.
Oui, parce que du coup, on supprime l'absurde. Alors, c'est là où il faudrait regarder de très près, à mon
avis. Camus refuse la sérénité d'une certaine manière.
Oui, sauf que les dernières pages du mythe de Sisyphe sont étonnamment sereines, et sauf que dans le texte que vous citiez tout à l'heure, où il annonce cette troisième couche consacrée à l'amour, on a du mal à ne pas voir quelque chose qui va être, au fond, une sagesse, et qui sera une sagesse de l'amour, sans doute singulièrement proche pour le coup de Spinoza. Là, voilà, je crois que, autrement dit, je crois que le point de départ de Camus, parce que, il faut toujours rappeler que l'absurde, et Camus l'a dit expressément, c'est pas du tout un point d'arrivée. Il veut pas être un prophète d'absurde, comme il le dit lui-même. C'est un point de départ. Alors, je dirais que le point de départ de Camus est profondément différent du point de départ de Spinoza. Mais son point d'arrivée, s'il avait eu le temps d'écrire cette troisième couche, la couche de la réconciliation, la couche de l'amour, aurait sans doute été assez proche, au fond, d'une espèce de sagesse spinozite, c'est-à-dire une sagesse de la réconciliation. Non pas du tout, parce qu'on aurait enfin découvert que le monde avait un sens, il n'en est pas question. Pour Spinoza, c'est même impensable, en tout cas. Non pas du tout parce qu'on aurait trouvé le sens de la vie, ce qui pour Spinoza est d'une naïveté étonnante, mais parce qu'on aurait appris à aimer la vie telle qu'elle est et non pas pour ce qu'elle serait censée vouloir dire. Au fond, la vraie sagesse, ça consiste toujours, c'est la sagesse de Montaigne. Pour moi, donc, j'aime la vie. La vie est elle-même à soi, son but et sa visée, disait Montaigne. Autrement dit, arrêtons de demander à la vie de signifier autre chose qu'elle-même. Arrêtons donc de demander de signifier, parce que signifier, c'est toujours par définition signifier autre chose que soi. Apprenons à aimer la vie telle qu'elle est. Et c'est en ce sens, effectivement, que Camus, au bout du compte, mais avec un point de départ très différent et une sensibilité tellement proche de la nôtre, parce qu'elle est moderne, si vous voulez, qu'il nous touche davantage que tel ou tel auteur du XVIIe siècle ou de l'Antiquité, mais il redécouvre, au bout du compte, finalement, le même trésor de sagesse qui est celui de toutes les sagesses de l'immanence, comme disent les philosophes, c'est-à-dire les sagesses et de la vie et du monde, disons au fond, les sagesses sans Dieu.
Ce qui reste, c'est un destin dont seule l'issue est fatale. En dehors de cette unique fatalité de la mort, tout, joie ou bonheur, est liberté. Un monde demeure dont l'homme est le seul maître. Ce qui le liait, c'était l'illusion d'un autre monde. Le sort de sa pensée n'est plus de se renoncer, mais de rebondir en images. Elle se joue dans des mythes, sans doute, mais des mythes sans autre profondeur que celle de la douleur humaine, et comme elle, inépuisable. Non pas la fable divine qui amuse et aveugle, mais le visage, le geste et le drame terrestre, où se résument une difficile sagesse et une passion sans lendemain.
Alors, ben voilà, les sagesses de l'immanence, il faut traduire ce mot, qui est un mot crucial, évidemment, pour Camus, comme pour Spinoza, comme pour une tradition philosophique fondamentale, et qui justement récuse la notion même de fondement, d'une certaine manière, ou en tout cas d'origine radicale. Immanence, c'est en l'occurrence une sagesse qui ne repose pas sur le recours à un au-delà qui viendrait nous garantir et la morale et le sens. C'est dire que la joie que décrit Camus consiste dans l'accord
paradoxal en apparence, avec le tragique de l'existence, la condition tragique de l'existence, le fait que nous naissions par hasard dans un monde qui s'en moque, ce que Pascal décrivait très bien quand il parlait de contingence et quand il disait « nous sommes embarqués ». D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que Camus, à la figure de l'intellectuel engagé, préférait, selon ses propres termes, la figure de l'intellectuel embarqué, celui qui n'a pas le choix que de parler de son époque, mais qui pourtant ne se tient pas précisément dans les cadres étroits que lui fournissent son époque. Et Camus, de cette manière, est nietzschéen en ce qu'il est inactuel, c'est-à-dire qu'il s'abstrait de l'époque en apparence et qu'en somme, il ne parle que d'elle ou qu'il nous aide à la comprendre. Mais vous avez dit, signifier, c'est toujours signifier autre chose que soi. C'est dire que chez Camus, il y a cette intuition qui est aussi évidente qu'insoutenable, qui est finalement l'intuition parménidienne, selon laquelle ce qui est, est, ce qui n'est pas, n'est pas.
Et qu'en voilà, somme... C'est-à-dire exactement le contraire de l'existentialisme. C'est là où la récusation, enfin l'opposition entre Camus et Sartre est forte. Alors, on est tellement habitué à admirer la puissance spéculative et conceptuelle de Sartre et à sous-estimer celle de Camus, que le parallèle que je fais va paraître audacieux à plusieurs de mes collègues, mais au fond... La thèse majeure de Sartre, c'est que le non-être est. C'est ce qu'on appelle la liberté. Au sens sartrien du terme, le libre arbitre, comme on aurait dit au XVIIe siècle, c'est-à-dire que l'homme est l'être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. La thèse de Camus, à côté, elle est en effet parménidienne, mais elle serait aussi bien spinoziste. L'être est, le non-être n'est pas. Alors c'est là où il faut choisir. Les deux ont du génie. Et encore une fois, professionnellement, Sartre a davantage de savoir. Mais reconnaissons que ces deux thèses sont très fortes l'une et l'autre, mais que la plus paradoxale des deux, c'est quand même la thèse de Sartre. Parce que dire que le non-être n'est pas ou que l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est, bref, qu'il y a au cœur de l'homme une liberté absolue, c'est-à-dire une transcendance dans l'immanence, comme dira plus tard Luc Ferry, reprenant une expression en l'occurrence de Husserl, c'est un singulier paradoxe, c'est une thèse métaphysique très, très, très fragile, malgré tout. Alors que ce qui est beau dans la pensée de Camus, c'est qu'il ne nous demande d'accepter rien d'autre que l'évidence. Il y a un très beau passage que vous avez oublié dans le mythe de Sisyphe, où il dit, au fond, quand on pense, on a le choix qu'entre la palisse et Don Quichotte. Ou plutôt, il n'y a pas à choisir, il faut les deux. La palisse, c'est quoi? C'est le pôle de l'évidence. Eh bien, voilà.
Le pôle de la tautologie.
Oui, mais l'être est, le non-être n'est pas. J'ai envie de dire, je ne sortirai pas de là. Ça, c'est mon socle de granit. Je crois que c'est le socle de granit de toute philosophie de l'immanence. Et que dès lors qu'on se dit que le non-être est aussi, on est déjà dans la transcendance. Et du même coup que la transcendance est une transcendance absolue, divine, ou une transcendance dans l'immanence, comme dit Husserl, ou comme dirait Sartre ou Luc Ferry, ça ne m'importe pas beaucoup. Dans tous les cas, on a fait un saut, comme dira Camus, on a rétabli de la transcendance. On a fait exister ce qui n'existe pas. Ce qui est beau, ce qui est bouleversant chez Camus, c'est qu'il nous demande d'accepter rien d'autre que l'évidence. Le réel est réel, il n'y a rien d'autre que ce qui est. C'est la métaphysique de Spinoza, c'est la métaphysique de Nietzsche, c'est la métaphysique de Parménide, c'est la métaphysique d'Héraclite, ça fait quand même beaucoup.
C'est l'immanence.
Et c'est la métaphysique de tous les penseurs matérialistes. Autrement dit, dire le néant c'est l'homme, parce qu'en fait c'est ça, certes, le néant c'est la conscience. Ça veut dire qu'on considère l'homme comme un empire dans un empire. Alors on a le droit, c'est ce qu'on appelle en gros l'idéalisme, c'est ce qu'on appelle la transcendance. La formule un empire dans un empire étant une formule de Spinoza, bien sûr il faut le dire, pour nos auditeurs, que Spinoza condamne. Le péché des péchés, la faute plutôt, la faute intellectuelle, c'est de faire de l'homme un empire dans un empire. Une exception de liberté dans un empire de nécessité. Une exception de transcendance dans un empire d'immanence. C'est l'erreur que Spinoza critique, qu'il refuse. C'est l'erreur que Camus critique et qu'il refuse. Donc l'opposition entre Camus et Sartre, c'est l'opposition entre une métaphysique de la transcendance, ce qu'est exactement l'être et le néant, transcendance dans l'immanence, c'est pas un dieu, c'est l'homme, mais l'homme a une liberté infinie. Souvenez-vous du très beau texte d'ailleurs de Sartre dans Situation 1, je crois, sur la liberté cartésienne. Il reprend la thèse de Descartes, la liberté est infinie ou elle n'est pas. L'erreur de Descartes, c'est de l'avoir cru qu'elle venait de Dieu. En fait, non, elle est au cœur de l'homme, mais c'est la même thèse. Donc l'opposition entre Camus et Sartre, c'est l'opposition entre deux métaphysiques, une métaphysique de la transcendance et donc du libre arbitre, de la conscience comme empire dans un empire chez Sartre et une métaphysique de l'immanence chez Camus. On a le choix, les deux sont tout à fait légitimes intellectuellement, et comme moi je me reconnais évidemment dans la métaphysique de l'immanence, vous ne m'empêcherez pas d'avoir une tendresse un peu plus grande pour Camus, qui l'a énoncé, cette métaphysique de l'immanence, avec tellement de force, de simplicité, d'humanité et de bonheur.
Les conquérants savent que l'action est en elle-même inutile. Il n'y a qu'une action utile, celle qui referait l'homme et la terre. Je ne referai jamais les hommes, mais il faut faire comme si. Car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humilié, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d'elle. La créature est ma patrie. Voilà pourquoi j'ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte.
Sartre partage avec Camus le diagnostic, évidemment, selon lequel il n'y a pas d'au-delà du monde, et que si transcendance il y a chez Sartre, c'est à l'intérieur du monde qu'il s'agit de la trouver. Ils partagent donc tous les deux cette intuition, cette évidence qui
oui, mais
est difficile
que
à entendre.
Qu'est-ce qui est le plus important?
Attendez, cette évidence qui est difficile à entendre, qui est qu'il n'y a qu'un monde. S'il n'y a qu'un monde, partons du principe qu'il n'y a qu'un monde, ou que le monde est tout entier tout ce qu'il peut être. Position spinoziste, le possible, c'est le réel, il n'y a rien au-delà de ce qui est. Arrêtons de croire, comme le dit Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, qu'on a des tas de vies parallèles qui sont plus réussies que celles qu'on a eues, et que du coup c'est pas notre faute si on a raté notre vie. Arrêtons de penser comme ça, assumons précisément le fait que nous n'avons qu'une vie ou qu'il n'y a qu'un monde. Ce diagnostic-là, que reste-t-il d'un monde qui est tout entier tout ce qu'il est? C'est un monde qui n'a pas l'appoint d'un double, d'un autre monde, d'un au-delà, pour pouvoir être regardé, jugé, contemplé, diagnostiqué, explicité, mis en sens, d'une certaine façon. S'il n'y a qu'un monde, le monde que nous avons sous les yeux est un monde qui, du coup, n'allant pas chercher son sens ailleurs qu'en lui-même, verse fatalement dans l'absurde. Chez Sartre, c'est la nausée, chez Camus, c'est l'étranger ou c'est le mythe de Sisyphe. Mais surtout, quel est ce monde qui est tout entier tout ce qu'il est? Que peut-on en dire? Puisque le simple fait d'en parler est déjà en soi paradoxal, nous met à distance de ce monde. Est-ce que le silence chez Camus, Camus emploie souvent le terme de silence, il parle du silence déraisonnable du monde. Est-ce que ce silence ne vient pas justement du fait que le monde n'a pas comme un haut-parleur un autre monde qui permettrait de parler de lui, et que finalement c'est toujours à l'intérieur du monde que nous parlons de lui, et qu'en somme, nous ne le saisissons jamais puisqu'on en fait partie nous-mêmes?
Oui, autrement dit, les mots résonnent dans le silence et ne sauraient donc aucunement l'abolir. Le silence est le premier et le dernier mot de Camus. Alors c'est peut-être le silence de sa mère, que vous savez, qui était une grande
qui
muette.
Qui le suivait en silence, hein, qui le suivait des yeux en silence.
Quasi muette. Je poserais volontiers le silence de Camus au bavardage de Sartre. Tant de mots pour dire si peu. Autre chose. Ce silence-là, là on touche une fibre plus intime, et pour Camus et pour moi finalement, c'est le silence de la mystique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une métaphysique de l'immanence chez Camus, il y a une mystique de l'immanence, une spiritualité de l'immanence. Et alors c'est quelque chose que Sartre n'a jamais effleuré, si vous voulez. Ce sont des domaines qui lui sont, à mon sens, totalement étrangers. Alors que cette dimension... l'expression est exagérée, mais je dirais volontiers de maître spirituel qu'il y a chez Camus. Cette dimension qui est bien une expérience, parce que la mystique, la différence entre la mystique et la métaphysique...
C'est que la mystique est une expérience.
Voilà, la métaphysique est une pensée, la mystique est une expérience, si vous voulez. Je veux pas dire que Sartre n'est pas des expériences. Le texte sur le garçon de café, qui est l'un des plus beaux textes en effet de l'être humain, ça relève de l'expérience. Mais c'est une expérience qui n'est pas mystique, c'est une expérience anthropologique, pourrait-on dire. Il y a chez Camus une sensibilité mystique. Et alors, on aime ça ou on n'aime pas ça. On peut considérer que c'est débile faisé. Moi, qui trouve que la mystique fait partie des dimensions essentielles de l'existence humaine, des choses les plus intéressantes à vivre, et qui suis athée. Quand je tombe sur un auteur qui, je dirais, touche du doigt et m'aide à toucher du doigt ce que peut être une mystique sans Dieu, je dis merci et bravo. Parce que dès qu'on donne sens au réel, c'est-à-dire que le réel est au service d'autre chose que de lui-même, alors que ce que j'appelle la mystique sans Dieu, c'est au contraire une façon de sentir et expérimenter que nous sommes éternels, comme dit Spinoza dans l'éthique, non pas que nous le serons après la mort,
là, il faut
sentir l'éternité d'autre chose, mais sentir l'éternité du présent en tant que présent.
Alors là, ce que vous citez, hein, parce qu'il faut le dire donc pour nos auditeurs, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, là on est à la toute fin de l'éthique, on est dans le livre 5, on est à la proposition 23, qui est un moment tout à fait paradoxal, qu'on n'a jamais vraiment, que beaucoup de commentateurs de Spinoza en particulier, les plus cartésiens d'entre eux, n'ont jamais vraiment compris. Non,
Alquier n'a jamais compris le livre.
Voilà, Alquier, pour ne pas le citer, n'ont jamais compris, c'est-à-dire effectivement un moment dans lequel Spinoza opère une sorte de conversion fulgurante, qui n'est pas une conversion évidemment à la théologie, mais qui est une conversion d'une certaine façon à l'éternité contenue dans chaque instant. Mais revenons à Sartre et Camus. Vous dites qu'il n'y a pas de mystique chez Sartre. Hein. Comment expliquer vous dites que Sartre n'a jamais effleuré cette mystique dont Camus parle. Comment est-ce que vous comprenez alors, on s'éloigne un tout petit peu du mythe de Sisyphe, mais pas tant que ça, que dans la nausée, les mots manquent bien souvent à Roquentin pour décrire les objets. Il dit, avant je le percevais, alors on est au tout début de la nausée, je le cite de mémoire et je l'ai pas sous les yeux, mais il dit, avant je percevais cet objet, maintenant je le... Et puis il n'y a plus de mots. Comment se fait-il que les mots fassent défaut à Sartre? Comment expliquer ça autrement justement que par le fait que, étant donné qu'il n'y a pas de double d'autres mondes qui permettent de regarder ce monde-ci à la façon dont un scientifique regarderait un cadavre et le disséquerait pour essayer d'en comprendre le mécanisme, comment le comprendre autrement justement que par cette expérience d'un monde unique où justement... Par conséquent, les mots font défaut. Il y a une mystique. Moi, je suis plutôt partisan de cela, mais on trouve chez Sartre une école du silence, une intelligence du silence, une intelligence de l'indicible, de ce qui ne s'écrit pas. Dans la nausée, c'est très frappant, non?
Oui, vous avez raison de dire qu'il y a un moment où les mots manquent.
Et oui.
Ça, je crois que tout esprit lucide et intelligent s'en rend compte tôt ou tard. Même Lacan. Même Lacan, vous savez, une des rares phrases de Lacan que je sauverai, pour ma part, c'est la suivante dans Télévision. Je dis toujours la vérité. Pas toute. Car toute la dire, on ne peut pas. C'est par quoi la vérité tient au réel. Ça, c'est une très très belle et très profonde phrase. Autrement dit, le réel, c'est justement ce contre quoi nos mots viennent buter. C'est ce qu'on ne peut pas dire du vrai. Alors que Sartre est perçu ça et qu'il l'ait magnifiquement exprimé dans la nausée, j'en suis évidemment tout à fait d'accord. Mais, alors c'était expérience de l'en-soi, cet être en trop, tellement plein, tellement matériel, tellement massif, qu'il en devient obscène. Cette obscénité du réel. Alors, oui, là voilà, si on appelle ça mystique, il y a chez Sartre, si vous voulez, une mystique de l'obscénité du réel. C'est vrai que c'est une expérience spirituelle, je vous l'accorde ça, et ces pages de la nausée font partie des plus belles pages, non seulement que Sartre est écrite, mais des plus belles pages de toute la littérature et de toute la pensée française. Mais c'est pas, si j'ose dire, la mystique qu'on cherche. Quand on parle d'un maître spirituel, c'est quelqu'un qui vous apprend à voir le réel comme il est, qui vous apprend à accepter que les mots manquent par définition, que les mots échouent à dire ce qui est, puisque ce qui est n'est pas un discours, ce qui est, c'est un silence. Mais que ça se vive dans la paix, que ça se vive dans la simplicité, que ça se vive dans quelque chose qui ressemble à un bonheur éternel, c'est-à-dire un bonheur qui n'aurait jamais commencé et qui ne finira pas, quand bien même nous, bien sûr, nous mourrons. C'est là, voilà. Alors, on peut parler, effectivement, après c'est une question de mots, mais cette dimension de mystique de l'immanence, de maître spirituel pour les athées d'aujourd'hui, chez Camus, me paraît quand même faire partie de son prix.
On dit que Sisyphe, étant près de mourir, voulut imprudemment éprouver l'amour de sa femme. Il lui ordonna de jeter son corps sans sépulture au milieu de la place publique. Sisyphe se retrouva dans les enfers. Et là, irrité d'une obéissance si contraire à l'amour humain, il obtint de Pluton la permission de retourner sur la terre pour châtier sa femme. Mais quand il eut de nouveau revu le visage de ce monde, goûté l'eau et le soleil, les pierres chaudes et la mer, il ne voulut plus retourner dans l'ombre infernale. Les rappels, les colères, les avertissements n'y firent rien. Bien des années encore, il vécut devant la courbe du golfe, la mer éclatante et les sourires de la terre. Il fallut un arrêt des dieux. Mercure vint saisir l'audacieux au collet et l'ôtant à ses joies, le ramena de force aux enfers où son rocher était tout près.
Vous avez dit le mot de simplicité. Le mot de simplicité, rien n'est plus difficile évidemment que la simplicité, c'est ce que Camus décrit. La simplicité est aussi...
Interromps un instant, mais la simplicité, c'est quand on arrête de faire semblant. C'est-à-dire le moment où le garçon de café arrête de jouer au garçon de café. Alors, il n'est pas sur la mauvaise foi dans les traînées, là encore, chef d'œuvre absolu.
Garçon de café, la femme de mauvaise foi.
Ça très souvent en cours. Mais le moment où on arrête de faire semblant, hein, le moment... Alors, si ce garçon de café fait toujours semblant, disons la chose clairement, il est malade. Si il n'a pas un moment de simplicité, c'est plus de la mauvaise foi, c'est de la pathologie. Les moments où il est simplement ce qu'il est, ces moments Camus.
Ce sont les moments où il est vivant.
Les moments où il est vivant. Les moments où il est simplement vivant, les moments... Je dirais volontiers, où il habite simplement le réel, où il habite simplement l'absolu. C'est plus des moments sartriens, c'est des moments camusiens. Alors voilà, nous sommes chez Sartre à chaque fois que nous faisons semblant. Donc la part de nous, en ce moment, qui fait semblant de faire une émission de radio sur Camus, elle est sartrienne.
La part de nous-mêmes qui joue au prof de philo, vous voulez dire, est sartrienne.
La part de nous qui fait semblant de faire l'amour quand on fait l'amour, tout ce que vous voulez. Mais s'il y a en nous, entre vous et moi, en ce moment, au moins un petit peu de simplicité, un petit peu de vérité qui se contente d'être simplement ce qu'elle est, cette part-là, elle est camusienne. Voilà peut-être comment on pourrait essayer, non pas de les réconcilier l'un et l'autre, ils n'en ont pas besoin, il n'y a pas à choisir entre les chefs-d'œuvre. Mais si on voulait tenir ensemble, malgré encore une fois l'abîme qui les sépare, l'être et le néant et le mythe de Sisyphe, je dirais l'être et le néant... a raison toutes les fois où je fais semblant, toutes les fois où je joue à être ce que je ne suis pas. Et donc forcément, je ne suis pas ce que je joue à être. Et Camus a raison dans tous les moments de simplicité, dans tous les moments où je me contente d'être simplement ce que je suis, de faire simplement ce que je fais. Eh bien, je crois que ces moments de simplicité sont pas seulement mes moments de bonheur ou d'ailleurs de malheur, parce qu'on peut être simple dans le malheur aussi.
Mais ce sont des moments de connaissance.
C'est les moments de vérité et c'est les moments de spiritualité. C'est les moments, si vous voulez, où la simplicité de vivre touche en effet à la spiritualité, touche déjà à la mystique. C'est les moments de silence, et là, en effet, il n'y a plus rien à dire. Et au fond, ce que j'aime dans le mythe de Sisyphe, dans cette fragilité, dans cette simplicité, c'est que j'entends le silence entre les mots. Un peu comme quand j'écoute Mozart et Schubert, quand j'entends le silence entre les notes. Et là, il y a quelque chose de tout à fait bouleversant. Et j'ai souvent dit à un de mes amis schumanniens qu'ils n'avaient jamais réussi à entrer vraiment dans Schumann, à aimer vraiment Schumann. C'est que j'entendais bien les notes, mais jamais le silence, si vous voulez. Alors voilà, j'ai envie de dire, dans l'être et le néant, j'entends bien les mots, j'entends bien les idées, elles sont formidables, ce type a du génie, évidemment, mais j'entends pas le silence, j'entends pas la simplicité.
Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Je juge que tout est bien, dit Édipe, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l'univers farouche et limité de l'homme. Elle enseigne que tout n'est pas, n'a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un dieu qui était entré avec l'insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d'homme qui doit être réglée entre les hommes. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher et sa chose.
Chez Camus, qui a moins de virtuosité, moins de connaissances, j'entends tellement mieux le silence, j'entends tellement mieux la simplicité de vivre, que j'en suis humainement davantage touché, secoué en profondeur.
Et précisément parce que la simplicité ménage la possibilité de s'étonner du monde comme il est, et de préserver, c'est ça, non pas le mystère justement, mais l'énigme, cette simplicité a l'avantage de ménager justement dans le monde son caractère profondément énigmatique, non pas mystérieux au sens où tout peut être expliqué d'une certaine manière, mais le fait de tout expliquer ne dissout pas, ne dissipe pas le
caractère énigmatique. Le mystère et l'évidence vont ensemble. Voilà la vraie leçon des mystiques en général et des mystiques de l'immanence en particulier.
Mais est-ce que la simplicité, ontologiquement, en termes de discours sur l'être, même avant d'être la simple simplicité de l'homme qui... par instant, se découvre capable de vivre, et non pas de survivre, ou non pas de faire semblant, ou non pas de donner un sens à sa vie, mais de vivre, tout simplement, à la façon dont le cœur bat, sans que la conscience lui en donne l'ordre, ou à la façon dont nous respirons, sans que nous ayons besoin pour cela de penser et de songer à respirer. Cette simplicité, cette adhésion, cette coïncidence avec soi,
découvre également le monde et ses délices, que ce soit la beauté des ruines de Tipaza que Camus décrit, que ce soit la douceur du corps d'une femme, que ce soit le plaisir d'être sur la plage sous le soleil, etc., etc. Cette simplicité que Camus décrit n'est-elle pas également à comprendre comme le contraire, non pas de la duplicité, qui est celle du garçon de café, mais comme le contraire du double, c'est-à-dire le fait d'opposer un monde à un autre. Est-ce que finalement cette simplicité ne prend pas appui sur un monde qui a ceci de simple et donc de difficile, qu'il n'est que lui-même? Il est unique. C'est-à-dire ici, je prendrai simplicité comme le synonyme d'unicité, c'est-à-dire un monde qui n'a pas de double, qui n'étant que lui-même, ménage pour seule joie, eh bien justement le fait d'assumer l'assomption de cette simplicité.
Autrement dit, c'est un monde idiot, au sens que Clément Rosset donne joliment.
C'est à lui que je pense en vous disant ça.
Idiotesse, le singulier en grec. Peut-être il y a trois. Clément Rosset est un auteur, est un ami d'abord, mais c'est aussi un auteur d'un immense talent. Mais il a notamment un don pour les titres que je trouve fabuleux. Il faut en dire un mot. Le réel traité de l'idiotie.
Magnifique.
Le titre, c'est le réel, le sous-titre traité de l'idiotie, c'est génial, c'est génial. Pendant idiotie au sens de l'idiotesse, de la singularité. Autrement dit, alors, deuxième titre, le réel et son double. L'idiotie, c'est ce qui n'a pas de double, le réel et sans double. Et troisième titre, mais je crois que c'est l'un de ses premiers livres, vraiment un livre de jeunesse.
Le monde et ses remèdes.
Le monde et ses remèdes. C'est génial. C'est génial. Il n'y a pas de plus beau
titre. C'est pas son meilleur livre, mais c'est son meilleur titre.
C'est son meilleur titre. Voilà, je suis d'accord. Mais il a 20 ans, 22 ans, je crois, quand il écrit ça. Le monde et ses remèdes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la simplicité, chez Camus, mais je dirais chez tous ceux qui ont essayé de la penser, ça veut dire une chose simple, ça veut dire le réel est sans double, le monde est sans remède. Autrement dit, Clément Rosset, en trois titres, a dit l'essentiel. Le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'il ne cite pas, dans mon souvenir, peut-être j'ai tort, mais il ne cite pas Camus. On a bien sûr le droit de ne pas citer Camus, mais je suis pas sûr que lui ait senti cette espèce de proximité. Peut-être parce que leur sensibilité est très, très différente. Il y a un poids de gravité chez Camus qui, moi, me touche beaucoup, que certains traitent avec un peu de condescendance, alors qu'il y a chez Clément Rosset une légèreté.
Une grâce.
Une grâce, voilà. Et ce sont deux très beaux sentiments. Ce qu'il y a de plus beau, c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire Mozart. Je dirais que Clément Rosset est plutôt du côté de Bizet que de Mozart, et Camus plutôt du côté peut-être de Brahms que de Mozart. Parce que justement, chez l'un, Camus, la gravité manque un peu de légèreté ou de grâce, et chez l'autre, Clément Rosset, la légèreté manque un peu de gravité, au point d'être des fois pas très très loin du... Non pas d'une forme de frivolité, mais d'une forme de légèreté un peu au
c'est
sens...
C'est le fameux goût de Clément Rosset pour l'anecdote qu'on retrouve.
Oui, pour l'anecdote. C'est son côté Bizet. Vous savez,
c'est son côté Tintin, également.
Le moment où Nietzsche, pour se guérir de Wagner, fait semblant de croire que Bizet est infiniment supérieur à Wagner. Bon, c'est très bien Bizet, mais malgré tout, on peut ne pas partager cet entrain. Mais voilà, vous avez raison, la simplicité, mais en même temps l'immanente, parce que là, les deux idées sont indissociables. Et donc le silence, ça veut dire... Le réel est sans double, le monde est sans remède. Eh bien, le premier à avoir pensé ça, à l'avoir exprimé en termes modernes, c'est pas Clément Rosset, bien sûr, c'est Albert Camus.
Oui, mais quand on pose la question à Clément Rosset, il dit que le philosophe dont l'ontologie lui est la plus familière, alors il a un philosophe absolu de référence, c'est Spinoza, qu'il aime au-delà de tout, mais le philosophe à l'ontologie duquel il n'a strictement rien à reprocher et que du coup il regarde comme une énigme parce que son parcours dément son ontologie, c'est Sartre. Clément Rosset dit lui-même qu'il n'a rien à reprocher à la nausée et que d'une certaine façon il n'a rien à reprocher à l'être et le néant. C'est dire qu'il y a peut-être justement dans la nausée ou dans l'être et le néant la possibilité d'une lecture mystique.
Il y a au moins une chose à reprocher, c'est l'idée de libre arbitre, l'idée de liberté absolue, infinie. C'est assurément pas une idée que Clément Rosset peut approuver. Non, par contre, voilà, l'espèce d'extase devant le réel, d'extase alors un peu horrifié devant l'obscénité du réel chez Sartre, un peu ironique, un peu amusé, n'en croyant pas ses yeux chez Clément Rosset. Vous savez, une espèce de syndrome de l'alcoolique. C'est vraiment, il évoque au-dessous du volcan, vous voyez, où le personnage alcoolique...
Ça, c'est dans le traité de l'idiotie. On est au début du traité de l'idiotie.
Peut-être, vous savez, mais je sais pas, il voit une rose. Il dit, mais c'est une rose, tu te rends compte, c'est une rose. Alors qu'il dit, bon, oui, c'est une rose, l'autre. Mais c'est qu'il est fasciné par la singulière idiotie, l'idiotie singulière du réel. Il est fasciné par le fait que le réel est simplement ce qu'il est.
Clément Rosset, le réel, traité de l'idiotie. Les ivrognes ont la réputation de voir double. L'homme possède deux yeux et par conséquent deux images du réel qui se superposent normalement l'une à l'autre. Lorsqu'il est ivre, la superposition se fait mal, d'où le fait que deux bouteilles au lieu d'une dansent devant les yeux de l'ivrogne. Mais cette duplication du réel est un phénomène purement somatique. Elle n'engage pas en profondeur la perception ivrogne du réel. Tout au contraire. L'ivrogne perçoit simple, et c'est plutôt l'homme sobre qui habituellement perçoit double. L'ivrogne est, quant à lui, hébété par la présence sous ses yeux d'une chose singulière et unique qu'il montre de l'index tout en prenant l'entourage à témoin et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe. « Regardez là, il y a une fleur. C'est une fleur. Mais puisque je vous dis que c'est une fleur !» Une chose toute simple, c'est-à-dire saisie comme singularité stupéfiante, comme émergence insolite dans le champ de l'existence. En quoi l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possible à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être? Car l'ivrogne voit qu'il y a là rose et qu'elle est sans pourquoi.
S'il y a une limite, c'est Clément Rosset, encore une fois, que j'aime beaucoup et que j'admire, mais c'est qu'il n'a pas le sentiment que ça puisse déboucher sur une morale. Alors, la question morale, chez Camus, n'est jamais traitée en tant que telle. Mais dans l'homme
c'est
révolté,
ce que j'allais vous dire, chez Camus non plus.
Non, mais chez Camus, elle n'est pas explicitement traitée, mais elle n'est jamais rejetée, si vous voulez. Elle est même clairement marquée. On sait qu'elle est là. Il se pose pas le problème de la pensée, parce qu'au fond, comme ça fait partie du réel, à la limite, la morale n'a pas davantage à être fondée que le Mont Blanc, comme disait Lévi-Brûle, Camus, on serait d'accord. La morale, elle est là, c'est dans l'immanence. Il n'y a pas besoin de la fonder. Elle est dans la beauté d'un geste. Il faut la vivre. Alors que chez Clément Rosset, elle est plutôt rejetée, condamnée, comme une illusion perverse. C'est son côté nietzschéen.
C'est son refus du militantisme, d'une certaine façon.
Non, mais ça, c'est autre chose. Le refus du militantisme, ça, on a le droit.
Non, mais Camus était, non pas un militant, mais Camus était plus engagé dans la politique que Clément Rosset. Il y a chez Clément Rosset une position Thomas Mann, apolitique.
Refuser une forme de gravité humaine, c'est-à-dire le sentiment qu'entre un salaud et un type bien, au fond, il y a une différence. C'est une question que j'ai posée un jour à Clément Rosset, à laquelle il s'est vraiment répondu. Un salaud tragique, au sens nietzschéen ou rossettien du terme. Un salaud tragique. Pour tragique qu'il soit, en quoi en est-il moins salaud? Autrement dit, en quoi est-ce que la pensée du tragique évacue, comme semble croire Clément Rosset, la morale? C'est quelque chose, pour ma part, que je n'ai jamais pu bien comprendre, ou en tout cas, quand je la comprenais, que je n'ai jamais pu accepter. Alors que chez Camus, et ça me touche aussi beaucoup, il y a à la fois, alors il n'y a pas de personnage moins moralisateur que Camus, il n'est pas là pour donner des leçons de morale aux gens, il n'y a pas du tout de volonté de fonder la morale, et je pense qu'il a raison, parce que, à mon sens, on ne peut pas, je dirais presque, on ne doit pas fonder la morale, mais il y a une façon de la prendre en compte. Il y a une façon de l'assumer comme il assume la totalité de l'humanité. Voilà, on peut garder ce parallèle entre Clément Rosset et Camus. Si au fond, malgré toute l'amitié et la tendresse que j'ai pour Clément Rosset, je mets Camus plus haut que Clément Rosset, c'est qu'il me semble que chez Camus, l'humanité est plus complète. Et au fond, l'une des choses qui me touche beaucoup dans Camus, et peut-être spécialement dans le mythe de Sisyphe et dans L'étranger, c'est cette figure d'humanité. Il y a quelques auteurs comme ça chez lesquels l'humanité est plus complète que chez les autres. Les deux plus riches exemplaires de l'humanité dans le monde de la pensée, pour moi, c'est Montaigne et Aristote. Voilà. Chez Montaigne, chez Aristote, l'humanité est plus complète que chez les autres. Bien plus complète que chez Kant. Génie immense, mais il n'y a pas cette complétude, cette richesse, ce sens de la complexité de l'humain. Chez Camus, qui n'est pas Montaigne, qui n'est pas Aristote, tout le monde sait ça, mais il y a cette espèce d'humanité plus complète que chez les autres, plus complète que chez Sartre, plus complète que chez Clément Rosset, pour reprendre les deux derniers parallèles que nous venons d'évoquer.
Oui, parce que Clément Rosset décrit effectivement une trajectoire qui va du non-sens à la joie, et d'une certaine façon, on retrouve là une inspiration, alors là, pour le coup, profondément, effectivement, camusienne. Une étrangeté dans le mythe de Sisyphe, tout de même. On parle depuis tout à l'heure, depuis un certain temps maintenant, du mythe de Sisyphe, donc de Sisyphe, Et il n'est question, véritablement dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire du personnage de Sisyphe, qu'à la fin du mythe de Sisyphe. Alors, il faut rappeler historiquement qui était Sisyphe. Sisyphe a été condamné par les dieux, qui était le roi de Corinthe, a été condamné par les dieux à pousser sans répit une pierre en haut d'une montagne jusqu'à ce qu'elle retombe de l'autre côté, qui est donc la démarche absurde. Bon, on peut opposer... Et c'est peut-être le sens de l'opposition qu'il y a entre immanence et transcendance, ça peut aider à le comprendre. On peut opposer le mythe de Sisyphe au mythe de Tantale. Le supplice de Tantale, c'est quoi? C'est qu'il est face à une table garnie de mets délicieux, Tantale dont la gourmandise est le défaut, et à chaque fois qu'il tend le bras pour saisir l'un des mets qui se trouve sur cette table, la table s'éloigne.
Par conséquent, c'est le traité de la réforme de l'entendement. Voilà. Si on voulait illustrer la différence entre les deux, c'est que le mythe qui aurait pu être emblématique dans le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, ça sera en effet le mythe de Tantale. C'est faux bien qui nous fuit au fur et à mesure qu'on s'en approche. Chez Camus, c'est en effet le mythe de Sisyphe, et ça confirme cette différence foncière, au moins dans le point de départ, entre les deux penseurs.
Alors justement, Tantale est une figure métaphysique par excellence, parce que c'est la figure de celui dont le désir est aiguillonné justement par un objet qu'il se donne, mais qui est toujours hors d'atteinte, à la façon dont le désir étymologiquement désignant la nostalgie d'une étoile nous fait tendre vers lui sans que nous puissions saisir véritablement l'objet qu'il se donne, jusqu'à ce qu'il se résolve en Dieu, finalement. Donc là, on est en pleine métaphysique. Alors que pour Sisyphe, le désir, d'une certaine manière, étant donné que le geste est absurde et qu'on est toujours déjà là à l'accomplir, le désir n'a pas d'autre fin que lui-même. Est-ce que il n'y a pas, dans le mythe de Sisyphe, l'ultime leçon du mythe de Sisyphe, ce qui permettrait d'expliquer et d'aller véritablement au fond du paradoxe qu'il décrit de Sisyphe heureux, alors que franchement, la condition de Sisyphe n'a rien d'enviable? Mais justement, la condition de Sisyphe n'a rien d'enviable dans la mesure où c'est la condition humaine. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, certes, vous écrivez des livres, néanmoins, que faisons-nous qui pèse davantage et qui demeure davantage que le geste de Sisyphe consistant à pousser un rocher en haut d'une montagne avant qu'il s'effondre de l'autre côté? Sisyphe décrit la condition humaine, la condition de l'homme sans Dieu, c'est-à-dire la condition d'un homme qui n'a pas à se donner de désir au-delà du monde. Est-ce qu'on peut, avec cette différence Sisyphe-Tantale, expliquer, expliciter la différence entre immanence et transcendance?
On pourrait le faire, mais même, alors pour le coup, même dans l'immanence, même pour ceux qui ne croient en aucune transcendance, il reste ces deux façons de désirer. Tantale, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire le désir selon...
Le besoin, le manque et la douleur.
Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour, dit Platon, comme vous le savez, dans le banquet. Et alors si le désir est manque, par définition, je ne suis jamais heureux. Puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire, dit Platon. Oui, mais si le désir est manque, je ne désire par définition que ce que je n'ai pas, et donc par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Je ne suis jamais heureux. Je suis séparé du bonheur par l'espérance même qui le vise.
Ou alors si je l'atteins, je m'ennuie. Ça, c'est Schopenhauer.
On passe de Platon à Schopenhauer, voilà.
On passe de Platon à Schopenhauer. Pour le dire très vite, la vie chez Schopenhauer oscille entre la souffrance et l'ennui.
Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
Je souffre de ce que je n'ai pas et je m'ennuie de ce que je possède.
Voilà. Souffrant parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire pas.
Et ça, c'est une alternative qui naît du désir pensé comme manque.
Voilà. Ou alors, donc... Ou bien, sur la base de ce constat, on se tire une balle dans la tête, donc la question vraiment, vraiment sérieuse, c'est l'action du suicide, ou bien, il y a une autre façon de désirer. C'est plus le manque, c'est la puissance. Et c'est là qu'on retrouve Spinoza. C'est-à-dire que pour Spinoza, le réel ne manque de rien, par réalité, par perfection, j'entends la même chose, écrit-il dans l'éthique. Et donc, le désir, c'est pas le manque, le désir est une puissance, pas au sens du pouvoir politique, mais puissance de jouir et jouissance en puissance. Au fond, la différence, si vous voulez, pour dire la chose... concrètement et un peu crûment, c'est que être chez Platon, le désir selon Platon, le manque, c'est le désir que vous pouvez ressentir de faire l'amour quand vous êtes tout seul. C'est ce qu'on appelle la frustration. Et tout le monde sait que les hommes frustrés ne font pas forcément ni souvent les meilleurs amants. La puissance de jouir et la jouissance en puissance, c'est la puissance, au sens où on parle de la puissance sexuelle. C'est-à-dire que le désir que vous ressentez quand vous êtes en train de faire l'amour. Alors, je vais vous dire, vous, je ne sais pas, mais moi, s'il y a un rare moment où je ne manque de rien, c'est justement quand je suis en train de faire l'amour. Quand le désir n'est plus le manque d'un bien, quand le désir est puissance de jouir et jouissance en puissance. Alors, ce que Camus, alors, il ne le dit pas dans ces termes-là, parce que là, on est chez Spinoza, on n'est plus chez Camus, mais la seule façon de comprendre comment Sisyphe peut être heureux, c'est de comprendre que le désir de Sisyphe, c'est pas ce vers quoi il tend, parce que là, il ne tend vers rien, c'est absurde. Le désir de Sisyphe, c'est ce qu'il fait. Autrement dit, il s'agit de ne plus désirer ce qui n'est pas l'avenir, l'espoir. Et
mais désirer ce qui est.
À condamner l'espérance dans ce livre. Condamner ce qui est, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est son pôle virtuellement spinoziste, ou ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la volonté, l'action, c'est son pôle explicitement stoïcien. Et de ce point de vue, il y a chez Camus, alors moi là pour le coup je m'en sens évidemment très très proche, même si je l'ai pensé par d'autres voies conceptuelles, mais il y a chez Camus une façon de penser ensemble, le volontarisme stoïcien. Au fond, la dignité de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il espère, elle est dans ce qu'il fait, donc dans ce qu'il veut. Et penser ensemble l'éthique de l'amour et l'éthique de la joie spinoziste, l'amour et la joie, comme vous savez, pour Spinoza étant évidemment indissociables, la façon de penser ensemble la sagesse antique, peut-être la plus tonique, la plus héroïque, qu'est la sagesse stoïcienne, et la sagesse moderne, la plus belle et sans doute la plus profonde, qu'est la sagesse spinoziste, là encore, il y a un beau cadeau qui nous fait là. C'est pas l'aspect le plus nouveau, parce que là, effectivement, il reprend deux pensées, mais il les adapte à ce climat spirituel de l'époque, parce que l'absurde n'a aucune place ni chez les stoïciens ni chez Spinoza.
Camus leur donne une coloration.
Voilà, arriver à intégrer ces deux fonds immémoriaux presque de toute sagesse, mais qu'en Occident on appelle le stoïcisme et le spinozisme, dans une sensibilité moderne, contemporaine, qui est une sensibilité de l'absurde, là encore, je trouve que c'est un beau cadeau qu'il nous a fait, et que de ce point de vue, ce petit livre fragile, et j'allais dire malgré sa fragilité, mais sans doute en partie à cause d'elle, l'un des chefs-d'œuvre les plus précieux et les plus rares du XXe siècle.
Parce qu'en définitive, il décrit un désir qui ne s'épuise pas dans son activité. Il décrit un désir qui se nourrit de sa propre activité.
La belle définition que donne René Char de la poésie, l'amour réalisé du désir demeuré désir. Voilà. Eh bien, la seule façon de comprendre que Sisyphe puisse être heureux, c'est de comprendre qu'il y a un amour réalisé du désir demeuré désir. Autrement dit, si pendant que vous faites l'amour, vous espérez l'orgasme, si ce que vous désirez, c'est ce qui vous manque, vivement l'orgasme le plus tôt possible, vous êtes chez Platon. Mais sincèrement, lequel, quand il fait l'amour, se dit vivement l'orgasme, c'est pas vraiment le problème. Bonjour l'érotisme, j'ai envie de dire la masturbation, y arriverait plus simplement et plus rapidement. Celui, au contraire, quand il fait l'amour, qui ne désire rien d'autre que l'amour qu'il fait, il est chez Spinoza. Et c'est en ce sens que Platon et Spinoza, outre que, alors pour le coup, ce sont des génies, évidemment, absolus l'un et l'autre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont raison tous les deux. Il n'y a pas du tout à choisir entre la théorie platonicienne du désir ou la théorie spinoziste du désir. Il y a à comprendre qu'ils ont raison tous les deux, mais qu'ils ne décrivent pas le même désir, même occurrence désir. Platon a raison à chaque fois que je désire ce que je n'ai pas, à chaque fois que je suis dans le manque, et donc inévitablement ça donne raison à Schopenhauer, ça donne raison à Aragon. Si le désir est manque, alors, et si l'amour est désir, alors il n'y a pas d'amour heureux. Si Platon a raison, Aragon a raison. Si inversement c'est Spinoza qui a raison, si le désir est puissance, alors Aragon a tort et Aristote a raison. Aimer, c'est se réjouir. Et voilà, ils ont donc raison l'un et l'autre parce que nous savons d'expérience qu'il n'y a pas d'amour heureux, Aragon a raison. Et qu'il n'y a pas de bonheur sans amour, Aristote a raison aussi.
Oui, mais en disant que Platon et Spinoza ont tous les deux raison, vous êtes spinoziste.
Voilà, et c'est en effet pourquoi, en effet, je suis spinoziste, c'est-à-dire que je pense en effet que Spinoza peut donner sa place à Platon, l'intégrer dans son système.
Au titre d'une erreur, mais ou d'une pensée inadéquate.
Oui, d'une vérité incomplète.
D'une vérité incomplète, d'un début de vérité.
Comme pour Spinoza, alors que Platon ne peut donner à Spinoza sa place qu'en la récusant totalement, qu'en l'évacuant de son système. Et c'est pourquoi je crois en effet que les pensées de l'immanence sont les plus fortes. Et donc c'est celles en effet dans lesquelles, pour ma part, je me reconnais. Et voilà, et Camus en fait partie, c'est pas l'exposé le plus théorique qu'on en ait fait, le plus conceptuel, mais c'est l'un des exposés les plus humains, les plus touchants et à bien des égards les plus profonds, parce que ce petit livre simple et clair est en même temps un livre extrêmement profond, surtout, disons-le peut-être pour finir ou avant de finir, surtout dans la première partie, parce que le livre est aussi un petit peu inégal. Hein. Il y a deux sommets, c'est la première partie
et la fin
exceptionnelle et la fin sur Sisyphe. Là, voilà, les deux, ça fait donc en tout, il y a 50 pages à peu près, et c'est 50 pages. Là, sincèrement, j'ai envie de dire bravo et merci.
Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure, qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Merci André Comte-Sponville pour cette conversation sur le mythe de Sisyphe. Nous arrivons maintenant au terme de cette toute première matinée consacrée à Albert Camus. Ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà réentendre chacune des émissions de ce matin sur notre site internet www.franceculture.com en allant sur les pages consacrées à cet hommage Albert Camus, la pensée de midi proposée par Raphaël Antoven. Alors demain 15 août, c'est l'Assomption. Et contrairement au mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine, dont toutes les matinées seront intégralement consacrées à Albert Camus selon trois temps, d'archives à 9h05, de témoignages à 10h et de philosophie de 11h à 12h30, eh bien demain donc, nos programmes seront un peu modifiés, puisque vous entendrez en deux temps une émission consacrée à l'étranger, le roman de l'absurde, de 9h à 9h30 d'abord, puis de 11h à 12h30, et entre les deux, vous entendrez la messe de l'Assomption, preuve s'il était besoin que France Culture est une chaîne œcuménique. Tout de suite, le journal de la rédaction sur France Culture.
Bonjour, les hostilités ont pris fin officiellement au Liban depuis 7 heures ce matin. Et un combattant du Hezbollah a déjà été tué près du fleuve Litani, une trêve qui apparaît bien fragile après plus d'un mois de conflit et plus d'un millier de morts côté libanais. Nous appellerons Antoine Perruchot à Beyrouth avec cette question, le Hezbollah peut-il rendre les armes? Christophe Lurie, lui, se trouve toujours à Tyr, sur la côte sud, Tyr vers laquelle se dirigent deux convois humanitaires de l'ONU, vous pourrez écouter son reportage. Et à Jérusalem, nous appellerons Daniel Tabor, l'opinion publique est-elle satisfaite des modalités de la résolution de l'ONU et surtout des aboutissements de la politique menée par Ehud Olmert? Gaza l'oublié depuis un mois et demi, Israël pratique des incursions en territoire palestinien. Il y a eu depuis plus de 170 morts, le point avec notre correspondant Benjamin Barthes. L'actualité est particulièrement chargée au Nigeria, libération ce matin de trois Philippins enlevés début août, l'enlèvement de plusieurs autres cette nuit et un processus de transfert de souveraineté sur la presqu'île pétrolifère de Bakassi. Explication de Nabila Hamel. En France, la fonction publique rémunérée au mérite, seuls les directeurs d'administration générale sont concernés pour l'instant, avec une indemnité qui peut aller jusqu'à plus 20% selon quels critères, nous verrons cela avec Charlotte Hydrac. Et puis de moins en moins de catholiques en France et plus de non-croyants selon un sondage paru dans La Croix ce matin. La fin des hostilités au Liban est effective depuis ce matin, enfin presque, puisqu'un combattant du Hezbollah a été abattu il y a quelques heures. Il aurait ouvert le feu sur des soldats israéliens. En revanche, aucune roquette n'a été tirée et l'aviation israélienne poursuit ses survols des régions du sud et de l'est libanais sans lâcher de bombes. La question cruciale pour les deux camps est désormais celle du désarmement du Hezbollah. Son chef, Hassan Nasrallah, s'est engagé sur un arrêt des combats, mais pas sur un abandon de la lutte. Bonjour Antoine Perruchot.
Bonjour.
Vous êtes à Beyrouth. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire rendre les armes aux milices chiites?
Eh bien la négociation et la discussion sans doute, car le Hezbollah doit être désarmé, c'est ce que disent les résolutions 1559 et 1701, mais c'est aussi ce que souhaite le gouvernement libanais. Il avait d'ailleurs commencé à en discuter au sein de l'instance du dialogue national mise en place en mars dernier. Aujourd'hui, le Hezbollah refuse de désarmer, en tout cas tant que les soldats israéliens n'auront pas quitté le sud Liban. Le gouvernement de son côté refuse que ce soit l'armée qui s'en charge, car il garde en tête le souvenir des combats fratricides qui avaient opposé cette même armée aux forces libanaises chrétiennes, c'était en 1989. D'où l'annulation de la réunion de cabinet qui devait hier décider du déploiement des troupes dans le sud. Le gouvernement préfère négocier et ne pas devoir utiliser la force. Se pose donc aujourd'hui le problème de la séquence des événements à venir. Arrivée de la force internationale, déploiement de l'armée libanaise, retrait des troupes israéliennes, désarmement du Hezbollah, neutralisation du Sud. Tous ces événements se conditionnent les uns les autres. Dans quel ordre doit-il se dérouler? Il reste peu de temps, une semaine, deux au maximum. Fouad Siniora et son équipe sont mis sous pression par les Nations Unies et par Israël, qui entend bien obtenir par la diplomatie la victoire que les armes ne lui ont pas donnée. La presse libanaise aujourd'hui est quasiment unanime. L'heure du choix crucial est arrivée pour le Hezbollah, peut-on dire. Se met-il au service du seul Liban ou entend-il continuer à être l'instrument de l'Iran via la Syrie? De la réponse à cette question dépend l'avenir du pays.
Antoine Perruchot en direct de Beyrouth. Au sud Liban, avec la fin des bombardements, les déplacés commencent à revenir vers leur village. Plus de 900 000 personnes sont réfugiées dans leur propre pays. Et l'aide humanitaire va pouvoir circuler avec moins de risques. Deux convois de l'ONU sont en route pour Tyr. Ils transportent de l'eau, des vivres et des médicaments, mais la ville reste très difficile d'accès. Christophe Lurie est à Tyr depuis plusieurs jours. Il s'est déplacé en ville ce matin.
À Tyr, la mairie s'emploie à réparer les routes dans le but de permettre aux réfugiés de revenir chez eux. Une douzaine d'engins de chantier ont été dépêchés sur plusieurs sites pour niveler et reboucher les cratères laissés par les bombes sur les routes. Depuis ce matin, des dizaines de familles ont quitté Tyr où ils s'étaient réfugiés pendant plusieurs semaines. Abel Moshed Al-Husseini est le maire de Tyr.
Chacun va venir à son village. Tu sais, les gens, comment ils aiment son terre, son pays, son village. Ils vont revenir aujourd'hui et demain. Tout le monde y revient. Ce qui nous fait peur, on n'a pas trop confiance à Israël. On n'a pas confiance. Même s'il n'y a rien, ils vont bombarder.
Les villages autour de Tyr ont été détruits à 50% selon une première estimation. Le gouvernement libanais vient de lancer un appel à la prudence pour tous les réfugiés qui souhaitent retourner sur leur lieu de vie. Mohamed s'est rendu ce matin dans plusieurs localités à proximité de Tyr.
J'ai vu des immeubles totalement détruits, j'ai vu des maisons, j'ai vu des pompes d'essence totalement brûlées, j'ai vu des cadavres, des plantations totalement brûlées. C'est la première fois que je vois une telle quantité de destruction. Pour le moment, il y en a des bombes qui n'ont pas explosé pour le moment, partout, dans les rues, dans les plantations. Donc c'est un peu dangereux, il faut faire attention.
Le pont provisoire sur le Litani a été rétabli ce matin. Il permet le seul passage des véhicules légers. Les convois humanitaires des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge ne peuvent pas encore franchir le fleuve. D'ailleurs, Israël n'a pas encore donné son feu vert pour que de tels convois circulent dans